Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqarah. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأس والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر اللَّهِ قَرِيبٌ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment ?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce dimanche 22 mai 2022. Nous allons vous présenter tout de suite le journal, suivi d'un commentaire politique. L'Iran n'attend pas les étrangers pour réaliser ses projets pétroliers. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, la visite du président Raïssi à Mascate incarne le bon voisinage entre Oman et l'Iran, réaffirme le divan de la cour royale d'Oman. L'Iran ne tolère pas les bases israéliennes près de ses frontières, déclaration ce matin du porte-parole du corps des gardiens de la révolution islamique. Et puis le chef de la diplomatie de l'Union européenne souligne l'importance de la reprise des pourparlers de Vienne sur le nucléaire de 2015. C'étaient les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Selon le divan de la cour royale d'Oman, la visite officielle du président de la République islamique d'Iran, Ibrahim Raïssi, ce lundi au sultanat d'Oman incarne le bon voisinage et les bonnes relations entre les deux pays. Selon les médias omanais, dans une déclaration publiée aujourd'hui, le divan de la cour royale a noté qu'au vu le bon voisinage et les relations avancées liant le sultanat d'Oman et la République islamique d'Iran, le président Ibrahim Raïssi effectuera une visite à Oman le lundi 23 mai. La visite reflète le souci royal attaché par Sa Majesté, le sultan Haïsam bin Tariq et le président Ibrahim Raïssi à renforcer les relations bilatérales dans divers domaines pour servir leurs intérêts et leurs aspirations. La visite explorera les domaines de coopération entre les deux pays voisins. Puisse le tout-puissant Allah accorder aux deux dirigeants sages le succès de servir leur pays et la nation islamique, peut-on lire toujours dans la déclaration. L'Iran ne tolère pas les bases israéliennes près de ses frontières, déclaration du porte-parole du CGRI. Les sionistes déclarent d'une manière publique qu'ils ne tolèrent pas les intérêts de la République islamique d'Iran et donc nous ne pouvons pas tolérer qu'ils aient une base près de notre patrie, a déclaré le porte-parole du corps des gardiens de la révolution islamique, CGRI. Condamnant les activités de renseignement du régime sioniste dans les pays voisins de l'Iran, le général Ramezan Sharif, porte-parole des gardiens de la révolution islamique, a déclaré: les sionistes ont officiellement déclaré d'une manière publique qu'ils ne tolèrent pas les intérêts de la République islamique. Et nous, pour maintenir notre sécurité et nos intérêts nationaux, nous ne pouvons pas, à notre tour, tolérer qu'il y ait une base près de notre patrie. Les sionistes ont officiellement et ouvertement déclaré partout qu'ils attaqueront les intérêts de la République islamique d'Iran. Et à cet égard, ils poursuivent sérieusement la politique de la liquidation des personnalités iraniennes. Nous ne manquerons jamais aux intérêts de notre peuple, a conclu le porte-parole du corps des gardiens de la révolution islamique. Le chef de la diplomatie de l'Union européenne souligne l'importance de la reprise des pourparlers de Vienne. Le chef de la politique étrangère de l'Union européenne, Josep Borrell, a souligné l'importance de la reprise des pourparlers de Vienne en notant « Plus nous attendons, plus il devient difficile de conclure les négociations ». Borrell a souligné l'importance de la poursuite des efforts pour la restauration de l'accord nucléaire iranien de 2015, JCPOA. Vendredi, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, lors d'une conversation téléphonique avec le chef de la politique étrangère de l'Union européenne, a souligné le sérieux de Téhéran dans un accord solide et durable et a déclaré que Téhéran avait la bonne volonté nécessaire pour parvenir à un accord final à Vienne. Le 8e cycle des pourparlers sur la levée des sanctions anti-iraniennes a débuté le 26 décembre 2021. Le 11 mars 2022, les pourparlers ont été interrompus à la suggestion du chef de la politique étrangère de l'Union européenne et les négociateurs sont retournés dans leur capitale pour des consultations politiques. L'administration du président américain Joe Biden, qui revendique une approche diplomatique envers l'Iran et une tentative de retour au JCPOA, n'a jusqu'à présent pris aucune mesure pratique pour montrer sa bonne volonté. Le pétrole iranien stabilise le marché mondial, selon le ministre des Affaires étrangères du Qatar. Selon le ministre des Affaires étrangères qatari, le retour du pétrole iranien sur les marchés mondiaux est un facteur de stabilisation et peut réduire les prix. Le ministre qatari des Affaires étrangères a déclaré que le pompage du pétrole iranien sur le marché le stabiliserait et réduirait les prix mondiaux du pétrole. Lui, qui s'est récemment rendu à Téhéran avec l'émir du Qatar, a déclaré que la partie iranienne les avait informés que Téhéran était prêt à parvenir à une solution de médiation pour résoudre le problème nucléaire. Ces propos du diplomate qatari interviennent après que l'émir du Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, lors d'une conférence de presse conjointe à Berlin avec le chancelier allemand Olaf Scholz, a exprimé vendredi son optimisme quant à un accord entre l'Iran et les puissances occidentales lors des pourparlers de Vienne. L'Iran critique les organisations internationales pour ne pas l'avoir aidé à accepter les réfugiés afghans. Majid Mirhammadi, un haut responsable du ministère iranien de l'Intérieur, a critiqué les pays européens et les organisations internationales pour leur incapacité à aider l'Iran à accepter des réfugiés afghans. Le vice-ministre de l'Intérieur, chargé de la sécurité et de l'application de la loi, s'est entretenu samedi après-midi avec la vice-ministre bulgare des Affaires étrangères à Téhéran. L'Iran accueille actuellement plus de 5 millions de migrants afghans dans ses camps de réfugiés, a fait savoir le responsable iranien, en ajoutant que la République islamique avait accepté ces réfugiés comme un geste humanitaire, ajoutant qu'ils recevaient les mêmes services que les ressortissants iraniens. Cette autorité iranienne a noté que l'Iran n'a pas expulsé ses réfugiés malgré l'insécurité alimentaire qui sévit dans le monde. Il a critiqué le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pour ne pas avoir fourni à l'Iran suffisamment d'argent pour abriter les réfugiés afghans. L'actualité régionale avec la Palestine, les Palestiniens de Cisjordanie occupés ont organisé les funérailles d'un jeune de 17 ans tué par les forces israéliennes. Les personnes en deuil ont condamné Tel Aviv pour ses crimes. La victime, identifiée comme étant Amjad Al-Fayed, a été abattue lors d'un raid sur le camp de réfugiés de Jenin. Un autre adolescent palestinien a également été grièvement blessé. Le premier ministre palestinien Mohammad Shatayé a condamné le meurtre de Fayed, soulignant que la communauté internationale devrait tenir Israël responsable de ses actes. L'incident est survenu quelques jours après que l'armée israélienne a tué la journaliste palestinienne Shirin Abu Akleh alors qu'elle couvrait un raid du régime sur le camp de réfugiés à Jenin. Ces derniers mois, Jenin a été au centre des tensions dans les territoires occupés. L'actualité, c'est également l'Ukraine, la Russie met sur la liste noire plus de 960 citoyens américains en réponse aux sanctions occidentales liées à la guerre ukrainienne. Parmi les principaux Américains figurant sur la liste du ministère russe des Affaires étrangères figurent le président Joe Biden et l'acteur hollywoodien Morgan Freeman. Les individus sont interdits d'entrer en Russie indéfiniment. Le ministère affirme que les sanctions sont nécessaires pour contrer les tentatives américaines d'établir un ordre mondial néocolonial sur le reste de la planète. Moscou a déjà mis sur liste noire le secrétaire d'État Antony Blinken et le chef du Pentagone, Lloyd Austin. La Russie, cependant, dit qu'elle reste ouverte à un dialogue honnête et qu'elle trace une ligne entre le peuple américain et les autorités incitant à la russophobie. Dans la guerre en Ukraine, l'Est du pays est toujours sous le feu de l'armée russe. Le président ukrainien pense qu'il n'y a qu'un seul moyen de résoudre le conflit en cours avec la Russie et c'est par la diplomatie. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique reste avec nous. Merci. L'Iran n'attend pas les étrangers pour réaliser ses projets pétroliers. Déclaration du PDG de la Société nationale du pétrole iranienne. L'Iran n'attend pas le retour des partenaires étrangers pour réaliser ses projets pétroliers. L'Iran a pu restaurer la capacité de production de pétrole au niveau d'avant les sanctions, a déclaré le PDG de la Société nationale du pétrole. La capacité de production de pétrole de l'Iran avant le retrait américain du JCPOA, l'accord nucléaire de 2015, était de 3 838 000 barils par jour. En raison des sanctions et de la réduction de la production pétrolière de l'Iran, afin de maintenir cette capacité, des investissements ont dû être faits pour que les puits de production ne sortent pas de leur orbite, a déclaré Rojasdemir. Cependant, sous le gouvernement précédent, ces mesures n'ont pas été prises et environ 1 million de barils de la capacité de production de pétrole du pays ont été perdus. Avec l'investiture du 13e gouvernement, la restauration de cette capacité était à l'ordre du jour et avec un investissement de 500 millions de dollars, l'Iran a pu restaurer la capacité de production de pétrole au niveau d'avant les sanctions en peu de temps, grâce à des mesures techniques, a annoncé le chef de la Société nationale du pétrole. Si les sanctions sont levées, nous pouvons immédiatement doubler les exportations de pétrole du pays, a espéré toujours cette autorité iranienne. Dans le secteur de l'industrie pétrolière, la politique du 13e gouvernement et du ministère iranien du pétrole et de la Société pétrolière nationale est de donner la priorité au développement de champs pétroliers et gaziers communs, a souligné toujours ce responsable iranien. Par conséquent, a-t-il poursuivi, le développement de la deuxième phase du champ Azadegan du nord à l'ouest de Karoun, l'achèvement du plan actuel du champ Azadegan du sud et le développement de la deuxième phase du champ Azadegan du nord d'une valeur de 7,5 milliards de dollars en utilisant le potentiel et des capacités techniques et exécutives des sociétés iraniennes d'exploration, d'exploitation et en s'appuyant sur la capacité de financement de plusieurs banques du pays, a noté le PDG de la Société nationale du pétrole. Nous n'attendons pas les pays étrangers parce que cette attente provoque la perte des réserves de pétrole et de gaz du pays et le déplacement de la richesse souterraine vers le voisin. Nous voulons prendre des décisions opportunes et prendre des mesures basées sur la force nationale. Bien sûr, il y a toujours la possibilité que nous puissions bénéficier d'investissements étrangers. Mais nous ne voulons jamais retarder les projets importants et prioritaires de pays, a ajouté le chef de la Société iranienne du pétrole de la République islamique d'Iran.
Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition du débat. Le 20 mai marque le premier anniversaire de la bataille de l'épée de Rouz entre l'entité israélienne et la résistance palestinienne. Une bataille qui a duré 11 jours l'année dernière et s'est terminée par un accord sous l'égide de l'Égypte entre le régime de Tel Aviv et la résistance palestinienne. À cette occasion, la branche militaire du mouvement du djihad islamique, les brigades d'Al-Quds, a mis l'accent sur le renforcement de son pouvoir de combat et de sa puissance de dissuasion et s'est déclaré entièrement disposé à faire face à toute agression de l'entité sioniste. La branche militaire du djihad islamique a souligné que la bataille d'Épée de Rouz avait complètement changé les équations du conflit et que la situation n'était plus comme avant après cette bataille et qu'au cours de l'année dernière, en effet, la résistance palestinienne était devenue plus forte et pour pouvoir, en effet, s'imposer dans les combats face au régime de Tel Aviv. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons revenir sur cette bataille importante, sur les exploits de la résistance palestinienne, sur les agressions qui se produisent quasi quotidiennement contre les Palestiniens, notamment dans le camp de réfugiés de Jenin ces derniers temps, et bien entendu l'évolution de la situation, la perspective de l'évolution de la situation dans les territoires occupés. Vous allez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Motus et bouche cousue. Dans la nuit du jeudi 19 au vendredi 20 mai, soit une semaine après la liquidation d'un commandant de l'unité Yamam à Jenin, et alors même que les sionistes en sont toujours à se demander comment les deux auteurs de l'opération d'il y a deux semaines contre la colonie d'Elad à l'est de Tel Aviv ont fait pour franchir un mur de séparation de 8 mètres de haut et de plus de 700 km de long, une triple opération commando a eu lieu en plein territoire occupé. Trois attaques à Tel Aviv et deux autres localités environnantes avec un premier bilan d'un mort, et ce, au milieu d'un terrible blackout médiatique. La triple opération a eu lieu alors que jeudi, le cabinet sioniste a autorisé la marche des drapeaux. Une douzaine de tirs ont été entendus dans un magasin à Tel Aviv où un sioniste a été tué. La deuxième fusillade a eu lieu à Cana, en Palestine occupée. Un sioniste a été grièvement blessé. La troisième opération s'est déroulée dans un restaurant à Césarée. Les auteurs de toutes les trois opérations sont arrivés à prendre la fuite et la police israélienne a déjà multiplié des points de contrôle afin de les arrêter. En Cisjordanie, un groupe de militaires israéliens s'en sont pris aux citoyens palestiniens, ce qui a déclenché d'intenses affrontements entre les deux parties. Selon les témoins oculaires, 13 Palestiniens ont été arrêtés par les sionistes. Des sources palestiniennes réaffirment que plus de 1200 Palestiniens ont été arrêtés par les militaires israéliens en Cisjordanie depuis le début de l'année en cours. Parmi ces personnes, 350 Palestiniens sont accusés par Israël d'avoir été impliqués dans les opérations de la résistance. Sur fond de tension dans les territoires occupés, la branche militaire du mouvement du djihad islamique Saraya al-Rots a mis l'accent sur l'augmentation de son pouvoir de combat, notamment après la bataille de l'épée de Rots, et a souligné que la résistance palestinienne était prête à combattre l'ennemi sioniste dans tous les domaines jusqu'à la libération de toute la Palestine. À l'occasion du premier anniversaire de la victoire de la résistance palestinienne lors de la bataille de l'épée de Rots, le membre du bureau politique du djihad islamique Sheikh Nafez Azam a déclaré le mercredi 18 mai que le peuple palestinien montrait un nouveau visage dans cette bataille et a prouvé que la Palestine était leur principale patrie. Il a confirmé que la situation en Palestine après la bataille de l'épée de Rots n'est plus la même qu'avant, soulignant que les martyrs ont fait écrire une nouvelle histoire pour le peuple palestinien.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité. Je vais tout de suite vous présenter nos invités pour cette émission. Nous sommes en ligne depuis Bruxelles avec Luc Michel, géopoliticien, et depuis Vaucluse avec Bernard Cornu, géopolitologue. Monsieur Cornu, bonjour et merci d'être en ligne avec nous.
Bonjour, et je suis à Paris aujourd'hui.
Très bien, parfait. Monsieur Cornu, alors, le 20 mai marque le premier anniversaire de la bataille épée de Rots, durant laquelle la résistance palestinienne a tiré notamment plus de 4000 missiles au plus profond des territoires occupés, provoquant ainsi, en effet, l'insécurité au sein de l'entité israélienne. Quel premier regard portez-vous sur cette année qui vient de s'écouler depuis, en effet, la fin de la bataille épée de Rots?
Effectivement, la résistance multiplie les opérations, d'une part à l'anniversaire de cette bataille l'an dernier, et aussi proche du 74e anniversaire de la guerre de Palestine. Et le but est surtout, je pense, de faire attirer l'attention de l'Occident, des Européens, des Américains, sur la gravité de la situation, sur l'injustice qui continue à régner dans les territoires occupés face à l'État d'Israël qui multiplie les exactions, les assassinats, les emprisonnements. Et en fait, on peut constater que ça commence à avoir de l'effet puisque tout récemment, un grand nombre d'artistes connus dans le monde ont demandé que les Nations Unies opèrent des sanctions contre l'État d'Israël, sachant qu'il reste toujours impuni face à ces exactions.
Merci pour ces précisions. Monsieur Cornu, restez avec nous. On va tout de suite rejoindre à Bruxelles Luc Michel, géopoliticien. Monsieur Michel, bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, à votre équipe et à M. Cornu. C'est toujours un plaisir de vous recouvrir.
Merci, merci M. Michel. M. Michel, alors dans quelle mesure la bataille épée de Rots en effet a marqué un tournant dans le conflit israélo-palestinien et a pu en effet changer les équations du conflit?
Écoutez, on était jusqu'ici dans une opération de lent étouffement de la résistance palestinienne. Et aujourd'hui, la radicalisation de la résistance correspond à la radicalisation de l'appareil d'État sioniste. Il faut redire, on est passé d'une intifada, qui était une guerre des pierres, à une capacité de la résistance à mener des attaques balistiques de haut niveau et à une parité stratégique entre les Israéliens et la résistance, obtenu grâce à l'inclusion de la résistance dans l'acte de la résistance et dans la politique de résistance libanaise et iranienne. C'est cela la caractéristique. Le plan des sionistes pour étouffer la résistance palestinienne et la diviser n'ont pas marché.
Merci pour ces éclairages, Monsieur Michel. Monsieur Cornu, alors, à l'occasion de ce premier anniversaire de la bataille de Rhodes, la branche militaire du mouvement du djihad islamique a souligné le renforcement de sa puissance de dissuasion face à l'entité sioniste. Alors, à quoi il faudrait s'attendre, justement, avec ce renforcement de la puissance dissuasive de la résistance et avec, en effet, la mise en œuvre, avec le rétablissement de cette parité stratégique dont parlait M. Michel?
Parité stratégique, je ne pense pas qu'on y soit encore parvenu. Je pense qu'il faudrait surtout atteindre une parité médiatique, une parité de justice, de droit à la justice. Mmh. Cette parité médiatique, pourquoi ? Parce que l'État israélien, depuis très longtemps, a des réseaux de communication très puissants pour faire connaître ses points de vue dans les médias occidentaux et aux États-Unis et partout dans le monde, avec des réseaux très puissants d'influence dans les médias, alors que la situation palestinienne est peu connue encore. Voilà, il faut espérer donc qu'il y ait cette parité médiatique. Et d'ailleurs, je voudrais signaler qu'avec le nouveau gouvernement français, nous avons une nouvelle ministre des Affaires étrangères, Madame Catherine Colonna, qui était la porte-parole du président Chirac et qui était notamment auprès de lui en 1996 à Jérusalem, le 23 octobre, quand le président, dans la vieille ville de Jérusalem occupée, auprès de Madame Leila Shahid, qui représentait la Palestine dans ces lieux, revendiqué par les Palestiniens, ce qui avait mis en furie le gouvernement israélien, parce que ainsi Chirac manifestait que les Palestiniens avaient droit à Jérusalem-Est. Et donc cette dame, qui est maintenant ministre des Affaires étrangères, est donc un peu de formation gaulliste, et j'espère qu'elle aura donc des positions, qu'elle poussera des positions françaises sur le Moyen-Orient qui seront favorables à la Palestine. Espérons qu'il y ait rapidement une reconnaissance de l'État palestinien, comme déjà plusieurs États européens le demandent, comme le Parlement européen souvent le demande, et que ça puisse faire bouger cette position médiatique de la cause palestinienne en Europe, aux États-Unis et dans le monde.
Merci encore, Monsieur Cornu. Monsieur Michel, alors aujourd'hui, en ce qui concerne justement cette prise de conscience de l'opinion publique mondiale envers les agressions de l'entité israélienne, où en est-on? Alors, en d'autres termes, est-ce que l'opinion publique mondiale, est-ce que les milieux politiques et médiatiques occidentaux sont arrivés à cette conclusion qu'il faudrait en effet conjuguer des efforts dans le sens de la sensibilisation non seulement de l'opinion publique mondiale, mais surtout de la classe dirigeante occidentale par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans les territoires palestiniens?
Moi, je crains au contraire que la complicité ne va s'approfondir entre les Américains et les Israéliens, puisque c'est eux qui sont à la manœuvre. Mmh. Il y a un processus de radicalisation. Il y a actuellement les Israéliens qui vont participer à des grandes manœuvres avec le SAD comme Américain. Et dans le cadre de ces manœuvres, ils doivent simuler des frappes de haut niveau sur l'Iran, mais également sur le Liban, l'Irak et le Yémen. C'est la réponse israélienne, c'est d'étendre à tout le Proche-Orient le containment, peut-on dire, des Palestiniens. Moi, je n'entends rien de bon des Occidentaux. Ils n'ont rien fait pour les Palestiniens pendant des années. Et je crois que ce sont des illusions, en particulier, d'attendre quelque chose de Mme Colonna. Elle a été choisie par Emmanuel Macron. On connaît les liens de Macron avec les États-Unis et l'impérialisme israélien, et je ne crois donc pas à une évolution favorable de la France, en particulier au milieu des Occidentaux.
Merci, merci encore, M. Michel. M. Cornu, en ce qui concerne justement les agissements du tandem américano-israélien, en l'occurrence ces manœuvres conjointes, quelles en seront les répercussions géopolitiques et sécuritaires, non seulement sur le paysage, sur la scène palestinienne, mais aussi sur la région tout entière?
Mais c'est vrai qu'il y a, il y a des manœuvres, il y a des menaces, il y a des évocations d'armes puissantes, de possibilités d'attaques. Ceci sert à, comme toujours, à promouvoir l'idée que l'État d'Israël est en danger pour influencer justement les médias occidentaux et les politiques qui nous parlent la peur. Mais je voudrais quand même observer que moi qui écoute très souvent tout ce qui se dit et s'écrit en France sur la Palestine, que même dans les médias publics français, on peut sentir depuis quelques mois une évolution. Et il y a eu récemment, par exemple, sur une radio française publique, France Culture, un long reportage d'une heure et demie sur la situation dans les territoires occupés, avec même des interviews à Gaza, des interviews à Birzeh, des interviews à Ramallah, à Naplouse. Et ceci est assez nouveau. Et je pense qu'il y a quand même des instructions du pouvoir français de faire mieux connaître la situation objective des Palestiniens, parce que la France et l'Allemagne se sont rendus compte que face à la grève, face à la guerre en Ukraine, on ne pouvait rien faire sur le plan profond de la justice tant qu'il y avait aussi d'autres conflits non résolus dans le monde, et notamment le plus ancien en cours, c'est-à-dire le conflit palestinien. Je crois pleinement que cette gravité de la situation aux portes de l'Europe en Ukraine a fait prendre conscience à nos dirigeants, notamment en France et en Allemagne, qu'il faut aussi résoudre tous les problèmes graves du monde et les conflits les plus anciens, et que la justice internationale doit s'appliquer partout. Elle ne peut pas s'appliquer seulement contre la Russie, contre un soldat russe ou autre chose. Il faut qu'elle s'applique partout. Je pense que c'est une réaction très profonde de cette exigence de justice. Alors je pense que c'est pas une illusion, ce sont aussi des observations, c'est un souhait, mais je ne crois pas que c'est une illusion. Il faut pousser dans ce sens à ce que la demande de justice complète soit la plus profonde possible et la plus globale possible, qu'elle s'étende à tous les fauteurs de guerre, et non pas seulement à quelques fauteurs de guerre, soit en Gaza, soit en Russie ou en Ukraine. Voilà, je pense que c'est un espoir, c'est une tendance forte. Il faut suivre ce mécanisme, cet besoin de justice internationale.
Merci encore, Monsieur Cornu. Monsieur Michel, alors quelle est votre observation si vous établissez un parallèle entre l'affaire ukrainienne et ce qui se passe en Palestine occupée? Est-ce que cette affaire, ces derniers mois, a relégué au second plan alors le dossier palestinien? Est-ce qu'il faudrait s'attendre, et dans quelle mesure on pourrait s'attendre à ce que la justice soit rendue en effet à tous les niveaux et de façon égale en Palestine et en Ukraine ou partout ailleurs dans le monde?
C'est une illusion. La justice internationale, c'est une farce manipulée entièrement par les Occidentaux. On voit à l'œuvre actuellement en Ukraine les réseaux de George Soros et de l'avocat prophète William Bourdon, c'est-à-dire les gens qui mènent le raid contre le gouverneur de la Banque du Liban, Salamé, les gens qui mènent l'affaire des biens mal acquis contre la Guinée équatoriale en Afrique, etc. Moi, je n'attends rien des Occidentaux. Il faut voir comme ce sont les élections de mi-mandat aux États-Unis. Et dans ces élections de mi-mandat où on va renouveler la moitié du Congrès, il y a un tiers du Sénat, eh bien, le lobby pro-israélien AIPAC a systématiquement empêché la désignation et le financement de candidats favorables aux Palestiniens. Je n'attends donc rien des États-Unis, qui sont les complices, évidemment. Par contre, du dossier ukrainien, j'attends un changement d'attitude de la Russie. La Russie, actuellement, elle constate qu'elle est agressée par les Israéliens et que, dans le cadre du dossier ukrainien, les Israéliens sont à côté des Américains et de Zelensky. J'attends donc rien du tout de Washington et tout de Moscou. Un soutien accru de Moscou à l'axe de la résistance et en particulier à la résistance palestinienne dans sa confrontation avec les Israéliens.
Merci encore, Monsieur Michel. Monsieur Cornu, alors revenons, si vous voulez bien, Alors, à cet incident grave qui s'est passé il y a une dizaine de jours, comme vous le savez, l'assassinat de la journaliste d'Al Jazeera, qui a eu des répercussions médiatiques importantes partout dans le monde, mais aussi révélé au grand jour, en effet, avec des preuves à l'appui, cette nature atroce et féroce, barbare de l'entité israélienne. Dans quelle mesure, justement, cet assassinat de la journaliste d'Al Jazeera, qui était en quelque sorte la voix de la Palestine depuis des années, alors pourra contribuer à une prise de conscience plus importante sur la réalité de la Palestine au sein des milieux politiques et médiatiques occidentaux?
Oui, ça a eu beaucoup d'effets parce que ça a été connu très tôt. Et effectivement, comme toujours, le gouvernement israélien a essayé de semer le doute. Mais on a pu observer que dans tous les médias français, la version israélienne n'a pas tenu longtemps. Et tout le monde a reconnu que la journaliste Shirin Abu Akleh avait été visée par un tireur d'élite et tuée alors qu'elle était ostensiblement avec son gilet anti-pare-balles prêt, donc visée à la tête pour pouvoir la tuer. Donc je pense que ça a eu de l'effet. Il faut que cet effet dure, et justement hier ou avant-hier, 126 artistes du monde entier, et notamment beaucoup d'Américains et des quelques Européens, ont demandé qu'il y ait enfin des sanctions contre l'État israélien. Donc, cette pari médiatique, à mon avis, est très importante, en complément de la recherche de parité stratégique, mais qui, elle, je pense, est une illusion face au surarmement de l'État israélien, face à la force qu'il a, et qu'il est soutenu depuis très longtemps par les armes américaines, par la recherche et développement des sociétés israéliennes qui fournissent aussi l'Amérique. Et donc, cette parité médiatique est en plus cette parité de justice. Il ne faut pas oublier que la CPI quand même a ouvert des enquêtes pour crimes de guerre, pour crimes contre l'humanité, contre l'État israélien, et ceci est nouveau. Alors c'est vrai que c'est un espoir mince, c'est vrai que l'État israélien et tous ses complices dans le monde feront tout pour essayer d'atténuer ces vagues médiatiques qui le critiquent, qui font essayer d'arrêter ces actions juridiques. Mais je pense que c'est un moyen très fort pour avancer, pour faire connaître la cause palestinienne et obtenir des solutions justes et globales. Voilà.
Merci. Une toute dernière question à Monsieur Michel. Monsieur Michel, il nous reste 2 minutes avec les récents événements, avec l'assassinat de la journaliste d'Al Jazeera, avec ces manœuvres conjointes américano-israéliennes, avec bien entendu des avertissements de la résistance. À quel scénario faudrait-il s'attendre sur le plan politique et surtout sécuritaire, Monsieur Michel?
Je crois qu'on va assister à une montée des dangers et à une montée de la confrontation. Moi, je n'attends rien des médias occidentaux, parce que quand on voit leur alignement total sur le State Department dans l'affaire ukrainienne et leur...
Voilà, pour visiblement, on a été coupé avec M. Michel, excusez-nous pour ce problème technique. Je remercie infiniment Bernard Cornu, écrivain et géopolitologue. Je remercie aussi Luc Michel, géopoliticien, d'avoir participé à cette édition du débat. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
Afrique économique.
Voici l'économie Afrique de cette semaine. la coalition Kaka-Oyer-Côte d'Ivoire-Ghana. Le gouvernement ivoirien et ghanéen ont dénoncé en marge de la COP 15 à Abidjan la définition européenne de la notion de cacao durable tout en soutenant les actions visant à protéger le couvert forestier. Réunis avant-hier mercredi dans le cadre du comité économie et commercialisation de l'initiative Côte d'Ivoire-Ghana, les deux pays ont signé une déclaration commune en faveur d'un pacte économique pour un cacao durable. Ce pacte identifie des mesures pour une application sincère du mécanisme de fixation du prix du cacao et recommande aux pays consommateurs de chocolat, notamment ceux d'Europe, d'opter pour une définition plus juste du cacao durable. Créé par la Commission européenne sous la pression des écologistes, ce label fixe de nouvelles exigences et contraintes liées à la préservation de la forêt et de la biodiversité que doivent respecter les producteurs, ce qui augmente de facto les coûts de production. Le non-respect de ces normes pourrait conduire à se faire évincer du marché européen. Sous couvert de protection de l'environnement, Abidjan et Accra estiment qu'il s'agit d'une manœuvre pour faire pression sur leurs opérateurs afin qu'ils révisent à la baisse les prix de vente. La Côte d'Ivoire et le Ghana cumulent à eux deux plus de 60% de l'offre mondiale de cacao. Le Ghana en quête d'investissement. Résolu à faire émerger un secteur minier florissant, le Ghana prépare son plan pour capter un maximum d'investissements étrangers dans ce domaine. En vue de réduire le coût des réalisations des infrastructures dans le pays, l'autorité du Nigeria a mis en place un système leur permettant de partager cette charge avec le secteur privé. Un système de crédit d'impôt dédié aux investisseurs privés. Le secteur privé nigérian va participer à la réhabilitation de certaines routes au Nigeria à hauteur de plus de 407,1 millions de dollars. L'annonce a été faite par le ministre des Travaux et du Logement, Baba Tundo Fashola, au cours d'une conférence de presse relayée par les médias locaux. Ces fonds serviront à la réalisation de deux projets. Le premier est la réfection d'une route de 234 km allant de Bali à Chetei pour un montant de plus de 228,8 millions de dollars. Selon le ministre, 48,1 millions de dollars sont déjà disponibles. Pour le second, ni la date du lancement du projet, ni le nombre de kilomètres à réhabiliter n'a été précisé. Toutefois, la note indique qu'il coûtera plus de 178,2 millions de dollars. Cette opération se fera grâce à un programme gouvernemental de crédit d'impôt. Il permet au secteur privé de financer des infrastructures publiques en lieu et place des versements d'impôts, puis de les compenser au fil du temps grâce à des prêts fiscaux, a expliqué le ministre Fashola aux médias. Le programme vise à partager le coût des projets d'infrastructure avec le secteur privé afin de diversifier l'économie et réduire sa dépendance aux ventes du pétrole. Mali, Conakry, plus de 1000 tonnes de coton fibre malien exportées vers le port d'Alport, Conakry. Le vendredi dernier s'est tenu à Kouré-Malé, à la frontière guinéenne, la cérémonie de lancement du premier convoi de balles de coton sur le corridor Conakry-Bamako. Cette cérémonie a enregistré la présence du ministre du Développement rural Moussio Modibo Keïta, la ministre des Transports et des Infrastructures et plusieurs autres personnalités. Cela fait plus de 20 ans que le coton malien n'avait pas transité par le port de Conakry. Mais aujourd'hui, ce port est une aubaine pour les courageux producteurs de coton en particulier et les millions de Maliens qui vivent directement ou indirectement des retombées du coton en général afin d'avoir leur pain quotidien. En croire les informations, c'est grâce à l'offensive commerciale Al Port Conakry qui, sous l'égide du port autonome de Conakry, a mené plusieurs démarches auprès des opérateurs économiques maliens afin de les inciter d'exploiter le port de Conakry. On souligne aussi que ces démarches ont abouti à l'ouverture d'une représentation d'Al Port Conakry Bamako à la signature d'un protocole d'accord de 300 000 tonnes avec les grands moulins du Mali et avec d'autres opérateurs économiques maliens. Au total, 1000 tonnes de coton fibre réparties entre 30 camions ont pris le départ à Kouré-Malé vers la Guinée-Conakry à travers Al Port Conakry. Selon le chef du département du ministère du Développement rural, Moussio Modibo Keïta, le coton reste un espoir sûr pour le Mali au regard du rôle important qu'il joue dans le développement économique, politique, social et culturel du Mali. Sa transformation locale étant encore peu significative, seule son exportation reste pour le moment la solution de sa valorisation. Il importe donc de transcender notre continentalité pour diversifier les voies et moyens de faciliter l'accès de notre coton au marché international, indique le ministre Moussio Modibo Keïta. Notons que ce lancement du corridor Conakry-Bamako pour le coton est un grand ouf de soulagement pour la CMDT qui, avec une production de plus de 770 000 tonnes de coton, graine est le plus grand chargeur du Mali. Elle contribue pour environ 4% de la formation du PIB et assure plus de 10% des recettes d'exportation. À travers cette ouverture du corridor Conakry-Bamako, la direction d'Al Port veut hisser le port de Conakry au rang des ports hautement compétitifs de la sous-région. Elle permettra aussi de renforcer davantage les liens de fraternité entre le Mali et la Guinée. L'essor des relations Gabon-Chine. C'est ce que révèlent les données de la Direction générale des douanes et des droits indirects DGDDI à fin de décembre 2021, analysant le volume des échanges enregistrés entre le Gabon et le reste du monde. Ainsi, comme les années précédentes, la Chine demeure le premier partenaire du Gabon avec un poids estimé à 26,7%. En effet, les échanges entre le Gabon et le reste du monde ont progressé de 3,6% à 4 494,2 milliards de FCFA en lien avec les commandes de la Chine, l'Inde, la France et l'Italie. Si de manière globale, le flux des échanges a enregistré une baisse évaluée à 1 201,5 milliards de FCFA, la Chine conserve sa position de partenaire privilégié du Gabon en matière d'importation et d'exportation. En 2021, les exportations du Gabon à destination de ses 10 premiers clients ont enregistré une hausse de 7,8% pour se situer à 2 736,3 milliards de FCFA. Cette situation est portée par les achats de la Chine, soit 1 066,0 milliards de FCFA. Il est suivi de l'Inde avec 4 770 milliards de FCFA, La Corée du Sud, 226,7 de milliards de FCFA et l'Italie avec 211,9 milliards de FCFA. Ces exportations concernent essentiellement les ventes du pétrole, du bois scié et ouvrage, du manganèse et de l'huile de palme.